L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase.
Cette semaine, l'heure de pointe, notre rendez-vous sociétal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de jeunes et beaucoup de familles, celui du logement étudiant. On le sait, trouver une chambre à un prix raisonnable révèle parfois du parcours du combattant, surtout quand les loyers flambent et que les places manquent. Et pourtant, il existe des solutions intelligentes, humaines, intergénérationnelles qui rapprochent les générations plutôt que les opposer. C'est ce que propose l'association Maillage, présente dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers. Elle met en relation des personnes d'un certain âge qui disposent d'une chambre libre avec des étudiants en recherche d'un toit en échange d'un service ou d'un loyer modéré. Un tissage social discret mais précieux qui change des vies et qui crée du lien et qui rassure et qui permet à chacun de se sentir utile. Bonjour Pierre de Nordès.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci de me recevoir.
Avec moi, bien sûr, comme d'habitude, avec un grand plaisir, j'accueille ma collègue. Bonjour Delphine Pereira.
Bonjour, bonjour Philippe, bonjour Pierre.
Vous représentez bien sûr le groupe La Dépêche dans ce partenariat de l'heure de pointe. Un grand plaisir de vous avoir ici sur Radio Présence. Je ne connaissais pas cette association. Alors c'est vrai que si on n'a pas, des étudiants, on ne peut pas comprendre. Mais votre association, elle mérite qu'on puisse y passer et consacrer du temps pour nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce SLIG Maillage et cette association? Alors, quand je dis que vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est la partie basque.
Ah, c'est la partie basque, oui, effectivement. On est à l'ouest. On est pas, l'association est à l'ouest.
Vous n'êtes pas à l'ouest,
nous ne sommes pas à l'ouest, ne vous inquiétez pas.
Je vois.
Je vous rassure. Donc, en fait, on est assez discret. Effectivement, c'est un travail de fourmi qui est véritablement fait par l'ensemble de l'équipe composée de bénévoles et des salariés. Mais c'est vrai que globalement, il y a un gros travail qui est en profondeur, qui est fait auprès des seniors, auprès des jeunes et auprès de toutes les structures qui peuvent éventuellement jouer pour nous le rôle de prescripteur de notre dispositif de cohabitation intergénérationnelle.
Donc, c'est une association?
C'est une association.
Un Maillage qui existe depuis quand et comment l'idée est-elle venue de créer cette association?
Alors l'idée, d'abord nous existons depuis 2012-2013 déjà en Pays Basque. L'idée est venue, elle est un petit peu plus lointaine puisqu'elle est arrivée en 2008-2009 avec sous l'égide d'une association à Pau qui s'appelle Prespuré. Et à l'époque, moi, j'éditais un journal qui s'appelait Factotum, et on avait fait une interview de ce dispositif-là, qui avait été mis en place, mais pour une seule fois, par le Secours catholique, à Pau. Et donc, moi, j'ai trouvé l'idée intéressante. Le Secours catholique ne souhaitait pas prolonger son expérimentation, qui pourtant avait été fort positive. Et donc, on se dit, on pourrait éventuellement prendre le relais. Et c'est là qu'on a commencé à mettre le petit doigt, l'index, et on a mis tout, quoi. Donc, parce que c'est quelque chose d'excessivement prenant, excessivement chronophage. Et donc, on a quand même pas mal travaillé en profondeur. Un dispositif qui, dans les années 2012-2013, n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, 12 ans après, 13 ans après. Donc, c'est vrai qu'il a fallu un petit peu essuyer les plâtres. La cohabitation intergénérationnelle et solidaire étant rentrée dans le cadre de la loi en 2018. Donc ça a mis du temps, puisque on estime que les premières associations en France se sont créées en 2004-2005, juste après la canicule.
Ah oui.
Canicule de 2003, ça a été l'effet déclencheur. Donc on se dit, il y a quand même 17 000 décès de seniors qui étaient tout seuls, franchement, très isolés, tout seuls. Alors les associations des grandes villes, parce que ça a démarré dans les grandes villes, c'était Bordeaux, Lyon, Paris, se sont dit qu'il y a quelque chose à faire. Parce que déjà, il existait des difficultés de logement. Bon, ce n'était pas à l'échelle d'aujourd'hui, mais quand même, ça commençait à être compliqué. Donc les premières associations se sont mises en place dans les années 2004-2005, juste après la canicule, et petit à petit, on a essaimé dans toute la France. Pour aujourd'hui, arriver à une... pour le réseau, par exemple, auquel nous appartenons, qui s'appelle Cohabilis, une soixantaine d'associations qui faisant partie de ce réseau.
Et l'idée, c'est de mettre donc en relation des jeunes en recherche d'un logement, d'une chambre, et des personnes un petit peu plus âgées, qui sont seules et qui ont besoin de compagnie ou d'échange pour ne pas s'isoler davantage.
C'est ça. Il y a ça. Il y a deux choses. Il y a, bon, c'est vrai, d'une part, des seniors. Les seniors, ils vont chez nous de 61 à 98. Donc, il y a quand même une palette assez large. Voilà. On n'est pas fixé sur une moyenne d'âge, même si aujourd'hui, on aimerait rajeunir, sachant que la moyenne d'âge est de, chez nous, 88 ans. Ce serait intéressant d'avoir des sexagénaires, davantage de sexagénaires et de septuagénaires. Pourquoi ? Parce que quand on commence à cohabiter tôt, ben ça incite un petit peu à s'ouvrir aux autres. Et ensuite, ça permet de mieux accompagner le vieillissement. Voilà. On se stimule, on est stimulé lorsqu'on reçoit quelqu'un. Or, effectivement, on sort de sa zone de confort. On est complètement à côté. Voilà, il faut partager parfois une salle de bain. Partager une cuisine, partager des lieux communs. C'est pas évident, hein. Quand on est chez soi, on est bien, on est seul, mais on est bien. C'est souvent un petit peu la réflexion qu'on rencontre. Mais une fois qu'on a passé cette démarche...
Aujourd'hui, nous avons entendu le conte des deux sapins de Sainte-Aurélie à Strasbourg.
Mais il faut savoir se faire violence.
Tous ces contes fêtent l'enfant de la crèche et nous disent l'incroyable nouvelle d'une naissance qui changera jamais la face du monde.
Ils font peur, on leur dit « mais qui c'est que je vais me mettre dedans ?» Les fêtes d'étudiants et tout ça, est-ce que ça fait peur ? Est-ce que c'est compliqué ? Et comme vous l'avez dit, une fois que ceux qui ont franchi le cap, est-ce que c'est aujourd'hui ceux qui viennent défendre votre idée ?
Ben oui, ce sont d'abord, les freins existent. Oui. Ce sont des freins essentiellement psychologiques. Voilà, les freins psychologiques, c'est ce que je viens d'énoncer un petit peu, c'est ce que je veux dire, c'est comment je vais réussir à vivre avec quelqu'un, je suis tranquille, bon certes je suis tout seul, je suis veuf, ou je suis séparé, divorcé, mais je commence à sentir le poids de la solitude, mais en même temps j'ai mes habitudes. Quelqu'un qui va rentrer dans mes habitudes, ça ne va pas forcément me plaire. Puis ensuite il y a la présence aussi de mes proches.
Et c'est ça.
Comment mes proches, qui sont les enfants, qui sont... les professionnels aussi qui travaillent autour de moi, vont-ils prendre cette intrusion, entre guillemets, d'un élément extérieur qui est un jeune ou une jeune ? Voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir que chacun prenne sa place. Il faut que chacun trouve son rôle dans ce microcosme qui est constitué du senior, du jeune, de l'auxiliaire de vie, de l'aide ménagère, du fils, de la fille et de l'environnement immédiat du senior.
Parce que le but, ce n'est pas... un jeune qui s'installe et qui va faire l'aide ménagère. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi peut-être préciser.
La ligne rouge, c'est le service à la personne. Mm-hmm. On travaille avec des structures de service à la personne, hein, c'est-à-dire que parfois, elles peuvent nous cibler, nous flécher des seniors, des gens qui pourraient être accueillants. En revanche, on ne met jamais la main, dans le doigt dans le service à la personne. Il peut y avoir des petits services...
Bien sûr.
De temps en temps. Mais des services qu'on rend dans une vie normale.
Ramener du pain, par exemple, ce genre de choses. Tu sais, ou aller récupérer quelque chose à la blanchisserie.
Voilà. Si tu peux aller chercher le pain, si tu peux aller, tu peux aller me promener le chien, j'ai pas le temps, j'ai mal au dos aujourd'hui, etc. Ce genre de choses, oui. Dans la mesure où ça devient systématique, dans la mesure où on dit, tiens, voilà, on va faire la cuisine tous les jours, etc. Bon, là, ça relève de la DMR ou d'une structure qui n'est pas la nôtre. Mm-hmm. Voilà, ça c'est clair. Et ça nous est arrivé d'arrêter des binômes parce que on avait cette limite avait été franchie. Donc il est hors de question de retomber là-dedans.
Il doit y avoir quand même après une amitié qui se crée entre le jeune et la personne accueillante.
Ah ben on est là pour créer du lien social. Donc le lien social, il est capital. Ça veut dire que même une fois que la cohabitation est terminée, parce que elle n'est pas faite pour durer 10 ans, la cohabitation.
Le temps des études.
Le temps des études ou le temps... parce qu'il n'y a pas que les étudiants, quand même. Il y a des salariés.
D'accord.
Il peut y avoir des alternants. Il peut y avoir des gens des jeunes en recherche d'emploi, des services civiques, un petit peu de tous les types de jeunes, quoi. Mais en même temps, c'est une fois qu'ils ont terminé leur convention, parce qu'on a des conventions, nous, on sait qu'il y a des liens qui sont créés. Ils restent en contact. Dans la plupart du temps, ils restent en contact. C'est arrivé que l'accueillant soit invité au mariage ou ce genre de choses. C'est arrivé.
D'accord.
Ce sont des belles aventures.
C'est une cohabitation comme les jeunes en font assez souvent aussi dans certaines villes, dans certaines grandes villes, pour partager des appartements. Et donc là, la personne qui accueille, il faut qu'elle ait une chambre au minimum de libre, mais elle peut en avoir plusieurs.
Ah bien sûr. Oui, tout à fait. On a parfois des seniors qui ont deux, trois chambres. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est vrai que la différence avec une colocation entre étudiants, c'est qu'il y a une responsabilité solidaire par rapport à un loyer. Dans le cadre d'une coloc étudiante ou pas étudiante là, en revanche, ce n'est pas un loyer qui est demandé, c'est une contribution raisonnable qui est définie par la loi. Voilà, et ensuite, chacun est responsable. Enfin oui, il y a pas une co-responsabilité s'il y a plusieurs personnes qui cohabitent dans la même maison. C'est différence essentielle. Puis après, comme dans une colocation étudiante ou autre, il y a quand même un règlement intérieur, entre guillemets. Pour nous, c'est la charte des droits et des devoirs, et c'est la convention d'hébergement. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes. Et je pense que dans les générations futures, celles qui ont aujourd'hui 30-40 ans, etc., elles seront beaucoup plus à même à lever ces freins que la génération actuelle qui a 80, 90, 95 ans.
Oui, c'est un changement d'habitude de toute façon.
C'est un changement d'habitude. Voilà. On ne fait pas, de toute façon, on n'a rien inventé. Il existait avant la cohabitation intergénérationnelle, intrafamiliale.
Oui.
Voilà. Elle était parfois subie, il ne faut pas non plus idéaliser. C'était pas évident de rentrer dans la famille de quelqu'un, hein, ou dans une ferme où vous aviez, vous vous mariez avec l'homme ou la femme, mais où vous aviez les beaux-parents, la tante, la grand-mère, donc vous preniez le lot. Donc c'était pas
fort.
Voilà, vous mariez pas qu'avec l'homme,
oui,
ou qu'avec la femme.
Ouais,
donc
oui,
c'était quand même
on
assez.
Vous prenez le package, quoi.
Vous prenez le paquet.
Exactement.
Bon, donc je pense qu'il y en a qui ont dû souffrir en silence.
Ouais.
Dans ce cas-là, c'est une autre manière de cohabiter. Qui est voulu, voilà, choisi, qui est donc qui part sur des bases différentes. Mais on a rien inventé. On recrée ce qui s'est créé pendant des siècles de cohabitation intrafamiliale, parce qu'il y avait pas, on n'imaginait pas faire autrement. Aujourd'hui, la vie fait que on va travailler là où il y a du travail, on va étudier en fonction des formations qu'il y a, voilà.
On se forme aussi à tout âge. Est-ce que c'est limité à un certain âge où vous avez les jeunes? Si, par exemple, quelqu'un était licencié à 40 ou 45 ans et qu'il est obligé de reprendre des études ou une formation quelque part, est-ce que maillage aussi rentre dans ce cas de figure ou non? L'âge est dépassé.
Alors,
même s'il reprend quelque part des études.
Oui, mais même sans reprendre des études, en fait, il y a la loi Elan qui indique qu'il y a deux critères, plus de 60 ans pour les seniors, moins de 30 ans pour les jeunes, pour les hébergés. Il est évident que cette loi, elle a quand même été, entre guillemets, conçue et dictée par quelqu'un qui a oublié qu'il n'y avait pas que des métropoles en France. Voilà, ma collègue de Bordeaux, j'étais encore avec elle hier en visio, elle a 100% d'étudiants, mais elle a 110 000 étudiants à Bordeaux. Pareil pour la personne de Toulouse. Mais moi, je n'ai pas 100 000 étudiants ici. Ça veut dire que, entre guillemets, les hébergés, ils ne vont pas être uniquement étudiants. Je vais avoir des salariés, je vais avoir, comme je disais tout à l'heure, des apprentis. Et également, je vais avoir des personnes qui, à 30, 40 ans, 50 ans, se retrouvent un peu, parfois, le bec dans l'eau. Il y a des, à un moment donné, des périodes de vie qui font qu'on se retrouve un petit peu en difficulté. Donc cela, on ne va pas, entre guillemets, les laisser sur le bord du chemin. On adapte un petit peu la convention. Ce sont ce qu'on appelle des conventions hors Elan.
D'accord.
Voilà. Mais nous le faisons, et c'est vrai qu'on essaye de... On va essayer, nous, petit à petit, d'influer sur les critères de cette loi. Moi, j'ai fait un mail, il y a un mois à peu près, à tous les députés, tous les conseillers départementaux de notre zone de diffusion, enfin, sur notre territoire.
Les quatre départements, hein.
Les quatre départements, voilà, ouais. Je leur ai envoyé à tous, en leur disant, est-ce que vous pouvez influer pour, lorsqu'il y aura l'étude du logement... On ne sait pas quand.
Ils ont le budget à s'occuper. Hein.
Déjà, à mon avis, malheureusement, ce n'est pas leur priorité aujourd'hui. Lorsque le logement viendra au goût du jour, est-ce qu'ils pourront éventuellement prendre en acte de cette inadaptation de la loi Elan, ou plutôt des critères de cette loi Elan en matière de CIS, par rapport aux communes et par rapport au territoire où la densité de population est moins forte? Moi, on va voir quelqu'un dans 15 jours. À Lourdes-Barousse, je ne vais pas avoir beaucoup d'étudiants à Lourdes-Barousse, c'est clair.
C'est sûr.
Donc ça veut dire que ce sera quelqu'un, soit qui peut-être un saisonnier qui part à Luchon, qui va à Luchon, ou ce sera quelqu'un qui travaille dans une fromagerie, je ne sais pas. Mais je ne vais pas avoir d'étudiants à Lourdes-Barousse. Il ne faut pas se leurrer.
Oui, ça peut être aussi, effectivement, ce que vous disiez, des saisonniers. Oui. Qui, parce que le logement aussi, c'est une difficulté quand on va travailler en montagne, oui. notamment. Et ils sont jeunes, en oui. général. Donc, ça peut rentrer aussi dans les critères.
Ah, mais ça rentre dans les critères. Parce que, bon, on a vraiment des difficultés. Alors, il y a une partie des saisonniers, souvent, qui sont locaux. Mais vous avez une partie exogène. Donc, ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs, mais qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas se loger. Alors, il y a des campings, ce sont des pis-allers, mais les pis-allers, à un moment donné, ils ne sont pas viables. Enfin, ils ne sont pas viables, ils sont compliqués. Quand vous rentrez dans votre caravane ou dans votre camping-car qui fait au moins 10 heures, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, c'est peut-être pas confortable. Il y en a qui le veulent, il y en a pour lesquels ce sont des choix de vie, et il y en a qui le subissent. Donc, là, c'est le travail aussi pour nous de voir un peu que dans des secteur saisonnier, comment on peut arriver à essayer de trouver des solutions.
Mais c'est là où se joue aussi votre visibilité.
Oui.
Pour pouvoir communiquer justement sur le sujet et dire que vous existez, vous êtes là et que les gens peuvent s'adresser à vous.
Oui, il y a eu un rendez-vous là, il y a à peu près un mois et demi avec des personnes du territoire de Hors-Luron, par exemple. Donc là, c'est vrai qu'ils sont, eux, ils se heurtent parfois à des problèmes de saison aussi. Mais je pense que dans le pays des Gaves, c'est la même chose. Je ne sais pas comment ils se logent dans le pays des Gaves, mais il y a peut-être des... Parfois, il y a des soucis pour les saisonniers
faire,
de...
Oui,
ben, les saisonniers de Cotteret, les saisonniers de Luz, les saisonniers de Gavarnie, par exemple.
Ou même les locaux qui n'ont même pas les moyens de locomotion. Donc, ils ne peuvent pas se déplacer. Et il faut qu'ils restent sur place.
Je parlais de Toulouse et de Bordeaux tout à l'heure. L'autre différence... qu'il y a par rapport à Bordeaux et Toulouse, c'est qu'eux n'ont pas de problème de mobilité. Moi, j'ai des problèmes de mobilité sur mon territoire.
Eh oui.
Eh oui, parce que moi, j'ai pas...
Il n'y a pas le tram qui passe, ni
le
bus
toutes
les 5 minutes.
En arrivant. J'ai pas vu le métro à Bagnères.
Vous l'avez pas vu ? C'est parce qu'il est enterré.
Il est enterré, voilà, c'est ça, il est enterré. Donc, voilà, on a des difficultés. On recherche actuellement une cohabitation pour une dame qui habite à La Roque-Magnouac. Il n'y a pas de métro à La Roque-Magnouac. Donc ça veut dire qu'il y a même quelqu'un qui va... Il va falloir avoir une voiture, obligatoirement. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs pour que une cohabitation elle soit harmonieuse. Bien entendu, ça va être le logement. Mais il faut aussi intégrer la mobilité, la formation et l'emploi. Mm-hmm. Alors, c'est pas un triptyque, c'est un quadriptyque, je ne sais pas comment on dit.
On va rentrer un peu aussi dans les coulisses de votre structure. En préparant, une de vos collègues me disait qu'il y avait deux cas de figure. Il y avait ceux qui souffraient de la solitude et qui avaient besoin effectivement d'avoir quelqu'un, un jeune, pour que la vie soit moins triste. Et elle me disait aussi qu'il y avait un deuxième volet qui était un peu moins glorieux, c'est celui des finances. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un loyer pour finir et boucler les fins de mois. Et parce que certaines personnes âgées n'arrivent plus à subvenir à leur maison, à leurs besoins, entre la nourriture, la taxe foncière, les charges, les fluides qui ont augmenté. Elles ont aussi besoin d'un petit loyer, d'un petit coup de pouce. Et donc, elles sont contraintes à mettre en location des chambres. Ah, mais vous avez ces deux cas de figure.
On a ces deux cas de figure parce qu'on a de plus en plus de seniors avec des petits revenus, des petites retraites.
Oui.
Beaucoup de femmes d'agriculteurs, des femmes d'artisans, qui, quand on regarde la feuille en bas à droite, c'est maigre. Donc ça veut dire qu'on ne va pas leur proposer à ces personnes-là d'avoir un revenu, mais c'est un complément de revenu.
Oui.
Complément de revenu. Donc, encore une fois, la contribution financière. Elle est faite d'une contribution, plus d'une participation aux charges. Tout ça relève de la CAF aussi, des APL. On peut toucher à la fois, on peut, pour un jeune, souscrire à bénéficier des APL. Voilà, dans la mesure où c'est cadré. Dans la mesure où ça rentre dans le critère, on est tout à fait éligible à ce genre de choses. Donc, ça veut dire que lui ou elle hébergé va pouvoir faire appel à la CAF. Et parallèlement, ça veut dire que le senior, il va pouvoir avoir un petit revenu complémentaire, ce qui n'est pas négligeable. On a aujourd'hui, chez les seniors, réellement, une précarité énergétique. Ça, il ne faut pas se leurrer. Moi, ça m'arrive de visiter pas souvent, mais de rentrer dans des maisons où l'hiver, je garde la veste. Parce que, alors, posez la question, vous avez l'âtre qui rougeoie un peu, je caricature à peine, hein,
oui.
Mais vous rentrez dans les autres pièces, vous vous remettez le manteau. Mm. C'est une réalité.
Donc ça permet de faire quelque chose de gagnant-gagnant, finalement.
Ah, mais c'est gagnant-gagnant, oui. Tout à fait. Gagnant-gagnant, voilà, dans la mesure où chacun y trouve son compte. Et c'est vrai qu'après, gagnant-gagnant, puis après, il faut que, faut que le feeling passe, il faut qu'il y ait une osmose,
oui.
Une harmonie qui se mette en place.
On va parler de tout ça, du coup. Alors, si un jeune tape à votre porte, d'abord, vous allez être mettre en relation donc, des propriétaires qui seraient d'accord pour accueillir des jeunes. Mmh. Vous avez ces jeunes qui sont aussi en recherche.
Oui.
Une fois que ça match, si tout va bien, alors, on paye le loyer à qui ? Directement à la personne ? On passe par vous ? C'est vous qui êtes le garant des ressources ? Est-ce qu'il faut, un peu comme dans tous les logements, être garant de quelque chose ? Comment ça se passe, concrètement ?
Comment ça se passe ? Une fois qu'on se dit, tiens, il pourrait y avoir une cohabitation possible. Donc, en fait, il y a le démarrage qui se fait. Et ensuite, bon, qui paye quoi ? Donc, c'est l'héberger qui donne directement une montant qui a été défini au départ, directement à l'héberger. Parce que nous, on ne veut pas faire l'intermédiaire. Enfin, on va pas faire intermédiaire financier.
D'accord.
C'est hors de question. En revanche, on vérifie quand même que tout a été réglé. C'est que si parfois ça nous est arrivé en 12 ans que la personne nous dise ouais, mais il me paye une fois sur deux, etc. Bon, mais là, hop, on est là pour recadrer. Nous sommes association médiatrice.
D'accord.
C'est important. Et donc tout est réglé de l'héberger à l'hébergeur directement.
D'accord.
Ensuite, il reste à l'association à régler pour l'hébergeur et pour l'héberger. Alors, il y a 80 euros d'adhésion et 20 euros de... On est en train de se statifier un petit peu. Donc, 80 euros d'adhésion annuelle et 20 euros de frais de dossier. Voilà.
Et je suppose qu'il y a des règles aussi. Par exemple, quand vous mettez en contact une personne âgée et un jeune... Il y a des bases qui sont posées pour dire, bon, alors, je ne sais pas, moi, on ne fume pas à l'intérieur, on n'organise pas des fêtes jusqu'à 3 heures du mat, des choses comme ça.
Par exemple, les choses comme ça, c'est défini dans la charte des droits et des devoirs et dans la convention. Il y a les deux.
Elle est personnalisée par senior
La charte est générale.
Oui.
La convention est personnalisée. On peut y ajouter quelques éléments. Il y a quand même une trame. 90% ou 80%, c'est une trame globale. Après, on personnalise.
Mm-hmm.
Parce que nous faisons du sur-mesure.
Bien sûr.
Donc, voilà. Donc, on précise dans la convention la date, enfin, la durée, le lieu, bien entendu. Ensuite, on précise aussi le montant qui va être versé. Et on précise, il y a aussi des clauses particulières qu'on peut rajouter dans la convention. Voilà, donc tout est vraiment... C'est ça qui fait à la fois la richesse et la complexité de notre métier. C'est-à-dire qu'on on a aujourd'hui, à la fin 2025, on aura eu à peu près une soixantaine de binômes, mais on a 60 cas différents.
D'accord.
Donc c'est... Et un travail souterrain. Il ne se voit pas.
Est-ce que, oui, mais on en parle et on essaie à travers cette interview
mais
de
là,
faire
bien,
découvrir,
ça fois, ça
découvrir,
ça émerge.
Découvrir votre structure. En fait, aussi, un des freins que, peut-être pour les seniors,
oui.
c'est toute la complexité administrative. Est-ce que vous les accompagnez, par exemple, à faire leur déclaration d'impôt pour savoir où il faut remplir et ce qu'il faut déclarer sur le montant du loyer, parce qu'il y a une partie des fluides, il y a une partie du loyer. Est-ce que vous les aidez ? Est-ce que vous vérifiez bien que c'est assuré que, enfin, comment ça se passe ?
Comment ça se passe ? Alors déjà, au moment de rencontrer l'héberger, l'hébergeant, on demande quand même des pièces. Ces pièces, c'est l'extrait judiciaire. Bon, ça ne garantit pas tout, mais
ça
donne une idée. Voilà. Bon, ça ne tourne pas, mais ça donne une petite idée. Il y a une attestation d'assurance qui est demandée. Alors, RC au départ, responsabilité civile. Après, on me demande une précision quand même. On demande qu'il y ait une attestation d'assurance habitation pour la chambre que monsieur ou madame Untel occupe à titre de cohabitation chez monsieur ou madame Untel. Voilà. Il y a tout ce genre de choses administratives qu'on demande. Après, au niveau de la déclaration d'impôt, il n'y a rien à déclarer. Parce qu'on est sous le coup sous l'égide d'une loi qui s'appelle la loi Elan, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui entérine de fait la cohabitation intergénérationnelle et solidaire, ce qu'on appelle la CIS. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a rien à déclarer.
Et rien à rajouter.
Ah, ça c'est intéressant. Ça, oui. Ça c'est une partie très intéressante pour les seniors qui nous écoutent, qui ne pensent pas que ceux qui vont gagner d'un côté, ils vont le perdre de l'autre.
Non, non. Alors par contre, il y a une chose. C'est effectivement, ils nous demandent, ils nous disent, moi je veux avoir 500 euros ou 600 euros par mois de loyer. On éclate complètement les limites de la loi Elan. C'est plus à nous. Là, c'est plus chez nous qu'il faut venir.
D'accord.
Mais il y en a qui nous le demandent. On dit, c'est tout à fait légitime, on comprend. Mais vous allez voir une agence immobilière où vous faites du Airbnb. C'est pas notre vocation. On est dans un schéma différent.
Et un cadre, oui. C'est encadré, de toute façon.
C'est encadré. La Bercy.
C'est vous aussi qui rédigez les contrats, quelque part. Ouais. Vous rédigez le contrat, vous arrivez quand même avec ce côté administratif.
Un petit côté administratif.
Qui peut rassurer les seniors.
Ça a été un peu. Oui, ça a été travaillé par le réseau national. Bon, on en avait un avant, bien entendu. Mais ça a été retravaillé par le réseau national qui, lui aussi, bénéficie d'un service juridique. Donc, c'est relativement blindé. Il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. C'est important de cadrer. Très important, parce que ça rassure tout le monde. Et puis ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une cohabitation, surtout.
Bien sûr.
Voilà. Sachant qu'après, il y a des contacts réguliers qui sont pris. Alors par téléphone, moi on bosse beaucoup par téléphone. Moi je sais que je passe ma vie au téléphone avec les seniors, avec les jeunes. C'est vrai que quand je vois, voilà, parce que les seniors, globalement, ont besoin de parler. Donc ils appellent, non pas forcément parce qu'ils ont un souci avec maillage ou un souci avec le jeune, mais parce qu'ils ont besoin de passer une heure. Hein. C'est tout.
Alors, si
c'est une
vous
réalité.
Êtes isolé, Pierre de Nodresse propose de vous écouter.
Voilà, nous sommes une filiale de SOS Amitié. c'est ce qu'on vit. Hein.
Ouais. Comment vous vivez alors, du coup, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez 3 salariés.
Oui.
Moi, je pensais que vous preniez peut-être une partie du loyer pour tout le côté administratif. Alors, vous vivez de quoi ?
Nous vivons de quoi ? Nous vivons de subventions. C'est-à-dire, quand je dis subventions, ce ne sont pas des subventions directes. Nous faisons des appels à projets.
D'accord.
C'est-à-dire que, auprès des collectivités locales, auprès des structures comme la CARSAT, comme les conseils départementaux, auprès de structures comme para-étatiques, comme la CAF, par exemple, ou autre. Et ensuite, donc, l'autre partie du revenu, c'est un petit peu le fruit des pièces de théâtre que nous jouons régulièrement.
Ah oui, parce que vous montez sur scène aussi.
Nous montons sur scène, nous faisons tout. Nous sommes assez polyvalents.
Et tout ça avec le sourire,
exactement. Donc c'est vrai que, par exemple, ce soir, nous jouons à Dax, à côté de Dax.
Voilà. Voilà. Alors, ces pièces de théâtre que vous jouez sur toute la France, elles ont quel objectif ?
L'objectif, nous, c'est de sensibiliser le grand public, et plus particulièrement les seniors, à la cohabitation intergénérationnelle.
Parce que vos pièces parlent de la cohabitation.
Ah oui, d'accord. Ce sont deux pièces, pour l'instant deux, peut-être une troisième qui arrive, qui sont axées sur notre dispositif de cohabitation. Et là, ce sont vraiment c'est un travail qui est fait avec un regroupement mutuel qui s'appelle la Mutualité de la Fonction Publique, MFP, et depuis 2025, Esprit Retraite, qui est une mutuelle de prévoyance et de prévention, essentiellement. Donc ces deux structures, en 2024 et 2025, nous ont suivis ou ont organisé, co-organisé avec nous, deux tournées, un peu sur toute la France. Donc on a eu, on a fait 20 dates la première année, 37 dates la deuxième année, mais pas uniquement sur notre territoire. Là, on est allé à Lille, on est allé un peu partout, dans le Rhône-Alpes. Là, on est en train de, hier, on est en train de redéfinir qu'est-ce qu'on va faire les contours de la tournée 2026, avec un cahier des charges qui change à chaque fois un petit peu.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pièce de théâtre ?
Alors, globalement, ça raconte soit une mamie, soit un papy qui est chez lui, qui est un petit peu tout seul, qui ne veut pas forcément, qui veut rester tout seul parce qu'il a la paix, mais qui s'ennuie, mais qui ne veut, veut pas se l'avouer. Donc il préfère être dans son, un petit peu dans son train-train quotidien. Et alors après, il y a des éléments extérieurs qui vont le pousser à cohabiter. C'est soit un frère, soit en fonction des gens qui tournent dans la pièce. Soit un frère, soit une voisine, soit la fille, qui essaie de lui dire, écoute, sors un petit peu, parce que sinon tes enfants, ils vont t'envoyer en maison de retraite, en EHPAD. Alors je dirais oui, mais le plus tard possible. En sachant que, voilà, toujours pareil, la cohabitation intergénérationnel qui se fait au domicile du senior. C'est un sas entre l'autonomie parfaite et puis le moment où on rentrera en établissement parce qu'il y en aura un. Voilà, on n'est pas contre les EHPAD, mais c'est prolonger, mais on est là pour prolonger le séjour à domicile, le mieux vieillir à domicile.
Et justement, est-ce que, bon, depuis le temps que ça fait un petit moment que vous avez l'association, est-ce que vous avez justement constaté ces bienfaits auprès des personnes âgées, de la présence de quelqu'un qui passe, je ne sais pas, quelques mois, quelques années avec eux?
Alors, on le constate de manière empirique, c'est-à-dire que les enfants nous disent « mais elle a complètement changé, ma mère, elle est de nouveau, elle est de nouveau vive, elle sourit, etc. » alors qu'elle était complètement lugubre. C'est un petit détail, elle mange mieux, elle s'habille mieux, elle est plus alerte, elle a retrouvé du vocabulaire. Tout, c'est des petits symptômes. Hein. Elle a retrouvé du vocabulaire. Donc, on aimerait faire, nous aimerions faire au niveau de... Il faut que je le propose à Coabilis, une étude sur, peut-être épidémiologique, sur l'influence de la cohabitation sur la consommation de psychotropes et de tranquillisants.
Oui.
De tranquillisants surtout, pardon. Donc...
les psychotropes, ça...
excuse-moi, non, c'est moi qui ai fait l'absus, voilà. Donc, et je pense qu'on est, je pense qu'on est vraiment là-dessus, on est sur des tendances très, très importantes. Souvent, l'interrogation, pourquoi les gens nous appellent, tout simplement parce qu'ils ils sont incapables de savoir qu'il n'y a personne chez eux la nuit.
Oui.
C'est important. Voilà, moi, encore une fois, c'est pas notre... 96 ans et demi, c'est peut-être pas notre doyenne, mais enfin pas loin. Moi, elle m'a dit, heureusement que j'ai Maya, elle habite à 7 km de Hoche. Elle m'a dit, heureusement que j'ai Maya. Elle m'a dit, je ne peux pas dormir si je suis toute seule dans la maison. Il y a deux chiens, mais elle ne peut pas. C'est comme ça.
Il y a cette peur, peut-être, de la famille, d'installer un étranger, un jeune, dans les murs. Mais de l'autre côté, ça rassure, parce que si... la personne âgée venait avoir un souci de santé ou tomber et que... Mais il y a quelqu'un qui peut avertir.
Ah ben c'est arrivé 4-5 fois dans la décennie que nous venons de vivre. 4-5 fois. Alors là, la personne, elle est là pourquoi ? Surtout pas pour manipuler ou surtout pas pour faire des secours de chance, parce que c'est quand même pas son rôle. Elle est là pour appeler, alerter, assurer une veille et rester auprès de la personne le temps que les secours arrivent. Et ça s'est passé 4-5 fois.
Et donc, alors que si elle avait été seule, il n'y a personne qui...
Personne ne serait venu, voilà. Ou peut-être que l'auxiliaire de vie serait venu le lendemain, à 8h30. Combien il y en a qui restent sur le carreau pendant toute la nuit, quand ce n'est pas deux jours? Ouais, c'est froid, le carrelage. Hein.
Quelles sont les questions que vous posent les seniors quand ils viennent chez vous? Quels sont les garde-fous qu'ils veulent absolument?
Moi, je ne veux pas que quelqu'un sorte tous les soirs. C'est la première crainte. Je ne veux pas un fumeur, je veux pas quelqu'un qui fasse du bruit. On a toujours l'image du jeune qui fait de la musique. Oui. Alors je leur dis, c'est très bien. En général, ils ne font pas de bruit parce qu'ils ont un casque.
Oui, voilà. Mais existe.
Mais le casque existe, mais méfiez-vous, quelqu'un qui reste dans sa chambre avec son casque, ça ne va pas être mieux pour vous. Donc on est là aussi pour alerter. Attention que le jeune ne reste pas dans sa chambre en permanence et ne s'isole pas lui non plus.
Oui,
parce que ça n'a aucun intérêt. Donc ça n'a aucun intérêt. Dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt, on arrête la cohabitation. Si le jeune ne joue pas le jeu. Donc, c'est surtout oui, mais comment il va s'entendre avec mes enfants? Avec les enfants, il faut que chacun trouve sa place. Il va pas remplacer le fils, la fille, mais il va prendre sa place. Différente. Alors, c'est vrai que parfois, les enfants, ils se disent, mais j'existe plus, là, il n'y en a que pour lui. Il n'y en a plus que pour elle.
C'est arrivé.
Oui, mais au quotidien. Mais c'est pas le fils ou la fille qui vivent,
c'est le jeune.
Donc, automatiquement, ils prennent la
place. Est-ce qu'il y a une peur que le jeune... profite un peu de ça pour prendre de l'argent ou avoir des avantages.
On rentre dans l'intime.
Oui.
Bien sûr.
On rentre dans l'intime. Est-ce que tout est réglé entre les enfants et les parents? Non.
Ouais.
Pas tout. Il y a des non-dits qui existent depuis des décennies. Et nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Ce sont des histoires. Ce sont leurs histoires. Mais comme moi, j'ai un monsieur à la limite des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Ça fait des années qu'il souhaite cohabiter. Ça fait des années qu'il est bloqué par un neveu qui a peur que la personne qui est hébergée braque, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a braqué, braque les terrains, la ferme, voilà. Ce monsieur, il m'appelle tous les deux mois. Je lui dis, écoutez, moi je suis désolé, la dernière fois que je suis venu, il y avait votre neveu avec un chien. Non, non, mais c'est... Oui. Donc là, ça fait ce monsieur, le pauvre monsieur, il est tout seul. Il s'ennuie à crever. Mais c'est... pourtant, il n'est pas sous tutelle, sous curatelle. Et pourtant, il a peur de ses neveux et nièces. Et ouais. Ça, c'est, je l'ai vu deux ou trois fois. Il y a aussi le fait que les fratries ne s'entendent pas. J'ai présenté quelqu'un il y a quelques semaines à un fils, enfin à une mamie, puis après à deux de ses fils, qui étaient ravis du contact, etc. Les deux autres fils au téléphone ont dit non, on n'en veut pas. Ils sont quatre. Et moi, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Ben, on dit mettez-vous d'accord. Soit vous dites oui, soit vous dites non, mais faut qu'il y ait une entente entre les fratries. Et rien n'est réglé, comme je disais au départ.
C'est compliqué de ce côté-là.
Compliqué.
Mais comment ça se passe du côté des jeunes? Vous les recevez souvent avec les parents, je suppose?
Pas toujours.
Pas toujours.
Non. D'abord.
Comment ça se passe avec eux? C'est aussi, vous mettez les choses au point.
Oui, mais on cadre de suite. On cadre de suite parce que bon, il faut vraiment aller au fond des choses parce que faut pas se leurrer. La raison est essentiellement financière au départ.
Bien sûr.
Voilà. Quand vous avez un loyer, vous regardez les loyers, vous dites 600 euros un studio, un T1, etc., ou 700 euros, vous dites, tiens, il y a la possibilité peut-être de faire autre chose. Donc c'est une raison financière. Mais ça ne suffit pas. Mm-hmm. Ça ne suffit pas, ça veut dire qu'il y a derrière une volonté de s'ouvrir à un autre. À un autre qui peut avoir 50 ans ou 60 ans de plus.
C'est Et que pas, vous ne connaissez pas.
Que je ne connais pas. C'est pas, alors on dit que c'est pas évident de rentrer chez quelqu'un, d'accueillir quelqu'un.
Oui.
Mais ce n'est pas évident non plus de rentrer chez quelqu'un.
Oui.
C'est la démarche, elle est aussi difficile pour les jeunes. Hein. Elle est pas, voilà, il faut vraiment savoir s'adapter, savoir se dire bon, est-ce que, puis après déconstruire les a priori. On est là pour déconstruire les a priori. Qu'est-ce que c'est un personnage? Quelqu'un qui radote, quelqu'un, il va falloir que je explique 10 fois les choses, il va rien comprendre, je vais envoyer des textos, il va m'envoyer des textos vides, enfin, bon, voilà. C'est ce genre d'a priori. Mais les a priori, ils existent des deux côtés. On est là pour déconstruire ces a priori.
Comment on peut vous connaître et comment on peut rentrer en contact avec vous?
Alors déjà, rentrer en contact avec nous, c'est par directement, le mieux, c'est par téléphone.
Voilà. On va
laisser le numéro de téléphone.
Alors, c'est
Haute-Pyrénées, c'est le 06. 38 69 21 15.
Ça, c'est pour les Hautes-Pyrénées.
Ça, c'est les Hautes-Pyrénées et le Gers.
Et le Gers, les deux.
Voilà, les deux. Pour le Pays Basque et pour les Landes, ouais. 07 43 43 36 21.
Voilà, ça c'est les deux numéros de téléphone qu'il
c'est
faut
les deux numéros de téléphone. Alors vous laissez un message, bien sûr, parce qu'on est toujours, on est parfois en rendez-vous, parfois on joue la pièce, hein. Donc parfois on joue et parfois.
Vous êtes acteur aussi?
Oui, ça, on fait tout nous. On est Factotum, qui est le nom du précédent journal que nous éditions dans un temps des anciens. Voilà.
Pas si ancien.
Pas si ancien que ça. Entre 1995 et 2020 et 2020.
Voilà, aujourd'hui, quelques chiffres pour terminer. Vous avez combien actuellement de gens qui
on
sont
suit,
des hébergeurs qui...
On aura suivi en 2025, avec les projections, là, on est fin novembre, une soixantaine de binômes sur les 4 départements.
D'accord.
Voilà. Et c'est à peu près... Alors, bien entendu, nous avons une antériorité sur le Pays Basque, donc on en a un peu plus en Pays Basque. Mais après, c'est à peu près équilibré sur les 3 autres départements. Voilà. Le département du Gers démarre bien. Alors que c'est un département très compliqué, parce que alors là, on est vraiment dans la ruralité la
oui.
plus
oui.
absolue. Alors là, et ne parlons pas de transport en commun, là, oui. dans le Gers. Rien du tout.
Parce que c'est vrai, il y a cette problématique. Et quand oui. on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus assez de logements pour les étudiants, que certains mmh. vont, pendant de septembre à juin, aller dans des mobilhomes, dans les campings, oui. parce qu'il n'y a, pas, de, y a voilà. pas de possibilité de se loger. Quoi.
C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, les communes, les intercommunalités et les départements... Imagine des solutions. La cohabitation en fait partie.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'on devrait être davantage, entre guillemets, être fléché par les départements. Puisque ce sont les départements quand même qui ont la compétence des personnes âgées. Donc c'est eux qui sont
oui.
un petit peu aux manettes par rapport à cette tranche d'âge. Et donc c'est eux qui devraient, à un moment donné, par exemple, vous avez des instructeurs de l'APA. Hein, les instructeurs de l'APA, effectivement, ils attribuent un certain nombre d'heures d'auxiliaires de vie, d'administrateurs, etc.
C'est l'allocation perte d'autonomie.
Allocation à perte d'autonomie, oui. voilà, pour l'autonomie. Et donc, parallèlement à ça, nous n'intervenons pas à ce niveau-là. Par contre, en revanche, possibilité de dire, mais parallèlement à cette intervention d'un professionnel, il serait peut-être intéressant, justement, de faire appel à une structure comme Maillage qui peut faire un peu le complément affectif ou pas affectif, mais enfin, en termes de...
Ouais, relationnel aussi.
Ouais, pour rassurer en parallèle avec ces associations ou ces sociétés de services à la personne.
Bon, on lance l'appel au département.
Voilà, l'appel vraiment, l'appel est lancé. On l'a recompris pour les seniors. Ben, ça ne rentre pas dans les revenus. Donc,
non.
Voilà, il ne faut pas s'affoler en disant, mais ça va. Est-ce que je vais payer plus d'impôts?
Vous
n'allez
pas payer plus d'impôts.
Voilà. Vous êtes là. Vous êtes garant. Vous êtes le garde-fou quand même de ce qui se passe. On peut arrêter une cohabitation qui se passe mal à tout moment, quelque part. Oui. Si vraiment il y a un problème.
Voilà, ce sont des contacts vraiment personnalisés. C'est Gers Hautes-Pyrénées, Pierre Papillon. On tient à donner les noms parce que c'est quand même important. Mmh. Voilà, c'est un homme ou une femme. Pierre Papillon dans les Hautes-Pyrénées et le Gers. Florence Farenc dans le Pays Basque et les Landes.
Voilà, donc vous avez toujours un interlocuteur. Ça rassure. Voilà, on ne rentre pas un diable à la maison. On rentre un jeune qui poursuit ses études ou qui vous l'avez dit, en alternance ou un jeune employé qui a besoin, et donc cette loi Elan, elle aide au moins jusqu'à 30 ans.
C'est ça.
Si j'ai bien compris.
Jusqu'à 30 ans, et après il peut y avoir des cas par cas, du sur-mesure, quand on est âgé de plus de 30 ans.
Voilà, alors n'hésitez pas à rentrer en contact, parce que je pense que ce qui vous manque le plus, effectivement, c'est des offres, c'est des gens qui acceptent d'accueillir des jeunes.
Exactement, mais je lance en même temps un appel aux entreprises, parce que parfois, lorsqu'on a dans des zones un petit peu reculées ou autres, on peut avoir des entreprises vraiment qui ont des difficultés pour loger leurs salariés et qui ne pensent pas à nous, parce qu'ils ne nous connaissent pas, tout simplement. Donc ça veut dire que quand on est au fin fond du Gers ou du Magnoac, on se dit, ou sur les coteaux, on se dit, tiens, mais on n'arrive pas à loger nos jeunes, ou nos jeunes, ou nos salariés, eh ben, tiens, mais il y a Maillage, tiens, pourquoi pas. Ça va pas être la solution miracle, mais ça peut être un élément de solution. Tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle on essaie de se rapprocher aussi des entreprises pour le côté logement des salariés.
Mais alors concrètement, comment ces propriétaires, à part la presse là aujourd'hui qui est avec vous et qui va... Il y a un éclairage sur votre association. Comment elles connaissent, elles, ce système pour rentrer en contact avec...
Gros travail de communication que nous faisons à notre niveau, minuscule niveau. Alors on passe de temps en temps une communication sur Facebook. Effectivement, vos médias sont très précieux. Sans vous, on aurait beaucoup de mal à émerger. Également, les pièces de théâtre sont véritablement un élément important. Par exemple, nous jouons en février au Melting Pot. J'ai oublié la date, mais nous jouons en Melting Pot...
C'est à Tarbes.
À Tarbes, à Tarbes. Voilà, le Melting Pot, on joue en février, on joue encore la pièce en 2025 sur le Gers. Voilà, on continue notre tournée sur les territoires. C'est vrai que c'est un des éléments très importants. Les deux pièces sont devenues un outil capital pour nous, et sur le plan de la sensibilisation, et sur le plan financier.
Vous aurez le plus bel accueil si vous prenez contact avec l'association Maillage. Vous avez le site internet maillage.org. Et puis, vous avez ces deux numéros qu'on va répéter pour les Hautes-Pyrénées-Le Gers, 06 38 69 21 15. Et pour la partie basque, puisque la partie béarnaise, c'est une autre structure, vous l'avez dit, c'est Presse Purée qui s'en occupe. Pour la partie donc, basque et les Landes, c'est le 07 43 43 36 21. Un grand merci à vous, Pierre de Nodrest, d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de cette belle structure et voilà, ce maillage qu'il y a entre les personnes âgées et puis les jeunes. Les deux peuvent des fois être en galère et c'est tant mieux si les uns peuvent aider les autres.
C'est ça.
Merci aussi à Delphine Pereira.
Ce fut un plaisir.
Vous avez
merci
de quoi écrire.
Et
parce que je pense que la cause vraiment
le
mérite. Et puis, ben vous aussi, si vous avez des fois, comme vous l'avez fait, besoin de seniors, on peut aussi de temps en temps relier ces demandes. Ouais, c'est important, puisque voilà, derrière, il y a des gens, il y a des personnes.
Et puis, il y a encore des endroits où on n'a pas joué dans les Hautes-Pyrénées. On n'a jamais joué à Lourdes.
Ah! Je vais faire passer le message.
Voilà. Faire passer le message. On n'a jamais joué à Lourdes, c'est très curieux. Je ne sais pas pourquoi, on a joué dans d'autres communes, mais pas à Lourdes.
Oui, c'est vrai, vous avez joué dans des communes alentours.
Oui.
C'est vrai.
Eh bien, écoutez, le message...
On n'a pas joué à Luz non plus, on pourrait jouer à Luz.
Argelès
On a joué à Argelès il y a 4-5 ans.
D'accord.
Il y a 3-4 ans. Donc,
on va refaire la carte.
Faut refaire la carte. On va
mettre des petits points partout.
Oui, voilà, je pense que dans la vallée des Gaves, on a du travail à faire.
C'est important aussi également. Ouais. Merci beaucoup. L'association s'appelle Maillage. Bon vent à vous. Et puis merci. Peut-être à très bientôt.
Mais j'espère. Merci à vous.
Au revoir.
L'heure de pointe en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées. Philippe Subercase.